Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Une émission toujours spéciale. Nous sommes toujours en plein confinement, un contexte qui dure depuis maintenant 7 semaines pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Alors sur cette antenne, on prend régulièrement la parole à vos côtés, personnes malades, familles, proches aidants, pour répondre à chacune de vos questions autour de la maladie d'Alzheimer. Et bien entendu, nous sommes particulièrement mobilisés en cette période compliquée et parfois inquiétante. La semaine dernière, vous avez été encore une fois très nombreux à réagir, à poser vos questions. Merci de votre investissement et de votre fidélité. Nous continuons bien entendu notre mobilisation avec cette nouvelle émission. Pour vous qui avez des inquiétudes sur un proche avec vous à la maison ou alors en EHPAD, si vous avez des questionnements, des peurs. Et puis une émission aussi pour tout le personnel soignant qui nous écoute en ce moment. Des situations uniques, compliquées, avec des personnes parfois fragiles. Il faut garder le lien et c'est le but de notre émission. Pour répondre à vos questions ou vous apporter un conseil, on retrouve la psychologue de l'association France Alzheimer, Judith Mollard-Palacios. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Judith, avant de réagir à certains témoignages et à certaines questions, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur sur cette antenne, et puis particulièrement cette période, celui des aidants. Certains sont au bord de l'épuisement, d'autres se sont vus refuser les visites en EHPAD auprès de leurs proches, des familles qui risquent même de recevoir une amende de la part des forces de l'ordre parce qu'elles sortent voir leurs proches, et puis toujours cette crainte que la personne malade ne passe un palier dans la maladie. Beaucoup de stress, beaucoup de confusion, des interprétations, des consignes et des directives qui changent du tout au tout selon les départements, les EHPAD et les interlocuteurs.
Oui, tout à fait. Hein, une situation, même si on peut percevoir en effet la fin du déconfinement, mais dans des conditions qui resteront, en tout cas dans certains départements, extrêmement contraignante hein, et limitante. C'est 7 semaines, 8 semaines hein, bientôt de confinement ont été une grande épreuve pour toutes les familles qui accompagnent hein, un proche, un parent, un conjoint atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. France Alzheimer a reçu énormément hein, de témoignages, de situations absurdes, de situations pénalisantes, de doubles contraintes finalement dans le contexte que vivent les aidants familiaux. Alors peut-être dire quand même que France Alzheimer, dès le tout début et même avant que le confinement soit étendu à la population entière, a vraiment agi hein, pour alerter les pouvoirs publics, a envoyé dès le 13 mars un premier courrier au ministère, puis un deuxième le 9 avril, co-signé avec la Fondation hein, Plan Maladie Neurodégénérative et les grandes associations France Parkinson, Sclérose en Plaques, pour sensibiliser, alerter le gouvernement sur d'abord les mesures hein, prises avant le 17 mars dans les EHPAD de distanciation sociale et les impacts hein, que ça pouvait avoir, mais aussi s'est mobilisé à alerter sur la possibilité des arrêts de travail pour les aidants familiaux, mais qui ne s'appliquent qu'aux personnes dites vulnérables au Covid-19, donc qui ne prennent pas forcément en compte hein, les personnes malades de moins de 70 ans, par exemple, alerter hein, aussi sur les conditions de maintien du lien social en EHPAD avec les familles. Bref, nous nous sommes mobilisés et nous n'avons reçu, hein, il faut le dire quand même, une réponse du ministère que hier. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'en effet, le ministère s'engage à alerter le ministère de l'Intérieur sur le fait que l'assouplissement hein, des contraintes de sortie soit véritablement adapté, enfin entendu pour les personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, n'empêche hein, que sur le terrain, eh bien, toutes ces consignes hein, ne sont pas forcément retenues et mises en place, donc donnent des situations très, très complexes. Nos associations, hein, et ça il faut le rappeler, nos 100 associations départementales sont toutes restées disponibles, ouvertes, hein, ont continué à agir à travers des permanences téléphoniques, du soutien psychologique, hein, par téléphone ou par Skype, et même certaines d'entre elles ont mis en place des activités de mobilisation cognitive, de relaxation pour les personnes malades et pour leurs aidants, bien sûr via les outils, hein, de communication à distance. Mais en tout cas, vous dire aussi que il y a un annuaire, hein, accessible sur notre site France Alzheimer pour connaître les propositions d'action de nos associations départementales et surtout ne pas hésiter à les contacter, ne pas hésiter non plus à leur faire remonter toutes les incohérences, toutes les situations difficiles. Hein. On a une de nos associations en Dordogne, pour ne pas la citer, qui a du coup interpeller le colonel de gendarmerie, hein, pour que soit respecté cet assouplissement des mesures de sortie, pour même s'il faut toujours une attestation et un certificat médical, mais pour vraiment que l'on tienne compte de la situation. Hein. Je pense notamment à un témoignage qu'on a reçu où cette aidante, hein, expliquait qu'on lui interdisait d'entrer dans les magasins avec son mari malade, qu'elle devait le laisser à la porte du magasin et qu'évidemment, eh bien, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire qu'il est parti, hein, ne comprenant pas, ayant oublié, hein, que son épouse était à l'intérieur du magasin. Bref, des aberrations qui vraiment nous indignent, hein, et qui ne peuvent se poursuivre.
Et c'est un peu le sens aussi de tous les témoignages qu'on a reçus aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à nous les faire parvenir. Alors on va commencer par celui de Julie, qui a 38 ans et dont la mère souffre d'une maladie apparentée Alzheimer. Elle dit que c'est extrêmement difficile, les aides à domicile sont supprimées ou diminuées. C'est à la famille de prendre le relais durant le confinement. Plus aucune complicité à l'heure actuelle avec ma mère. J'ai le statut d'auxiliaire de vie, d'aide-soignante et d'infirmière. Aucune vie à côté. Bref, je me sens comme être la boniche. C'est des mots forts. Alors, des malades jeunes, des aidants jeunes, c'est aussi ça la réalité.
Voilà, même si en effet les personnes malades jeunes qui ont donc de fait, hein, des aidants jeunes en pleine activité, activité professionnelle, activité familiale, activité sociale. Donc même si ces personnes malades, hein, sont en nombre moins important, hein, on compte à peu près 33 000 personnes âgées de moins de 65 ans atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Et ce sont évidemment des situations qui sont encore plus exigeantes, hein, qui mobilisent ces jeunes aidants qui ont également à devoir prendre soin et à être présent pour leurs propres enfants, hein, pour peut-être le développement de leur carrière professionnelle, et qui se trouvent vraiment très immobilisés. Alors d'autant plus évidemment dans cette période de confinement, et cette jeune aidante le dit, hein, où elle doit jouer tous les rôles avec des compétences, hein, qu'elle n'a pas, puisque ce sont des compétences professionnelles, hein, que on ne peut pas obtenir comme ça du jour au lendemain. Et puis aussi une relation, hein, qui est diminuée, parfois qui n'est plus existante. Alors, tout dépend aussi, hein, de ce qui préexistait au niveau de la relation, mais des situations voilà, très, très exigeantes. Elle évoque aussi quelque part, hein, la continuité des prises en charge, c'est-à-dire comment les services de soins, les services d'accompagnement à domicile, hein, comment toutes ces structures médico-sociales ont pu continuer à agir. Alors là aussi, on voit une grande hétérogénéité des fonctionnements. Je tiens quand même à souligner, hein, l'implication de certains services d'aide à domicile et de soins qui n'ont jamais failli à leur mission, qui ont continué à aller à la même fréquence, hein, au domicile des personnes qui en avaient besoin, mais malheureusement d'autres services, eh bien, qui ont, alors faute de matériel de protection, ou peut-être pour d'autres raisons encore, qui n'ont pas maintenu les prises en charge. Et là encore, on voit bien comme sur le territoire, il y a de grandes inégalités aussi.
On va passer à un autre témoignage, celui de Patricia. Ma sœur de 84 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, est confinée dans un EHPAD. Cela fait un mois, on a eu 3 vidéos. Elle est amaigrie, elle ne mange plus beaucoup. On ne la voit pas, elle ne parle plus non plus. Son époux est chez nous en confinement pour ne pas le laisser seul chez lui. Et heureusement, car il aurait très mal vécu sinon la situation. Mais si le confinement dure encore des mois, comment faire pour voir nos anciens ? C'est très triste. Et c'est vrai qu'il y a des stades où les répercussions sont sur l'état de santé général.
Oui, tout à fait. Hein, même si bon, les EHPAD, et on en reparlera, font avec les moyens qu'elles ont et parfois comme elles peuvent. Mais en tout cas, oui, les répercussions sur les sujets âgés, fragilisés, cette distanciation sociale hein, peut vraiment avoir des répercussions et entraîner ce qu'on appelle un syndrome de glissement, hein, un syndrome spécifique des personnes âgées fragiles et polypathologiques et qui eh bien, se laissent aller en quelque sorte, hein, faute de soins psycho-affectifs, hein, de la présence hein, de leurs proches, de leur famille. Et même si les soignants font certainement le maximum et ce qu'elles peuvent, cette distanciation sociale peut véritablement, et on a des retours hein, de terrain, augmenter plus encore dans ce temps de confinement ce syndrome de glissement qui fait que la personne n'a plus faim, n'a plus soif, se replie sur elle-même, parfois s'oppose hein, aux soins de nursing, ou même aux soins médicaux qu'on veut lui apporter. Et c'est assez comparable hein, à ce qu'on appelle l'hospitalisme, c'est-à-dire ces jeunes bébés qui étaient abandonnés et qui étaient accueillis dans des hôpitaux, qui recevaient des soins de nursing, hein, mais qui n'avaient pas de soins affectifs et qui dépérissaient. Voilà, donc c'est vrai que c'est une inquiétude. C'est la raison pour laquelle chaque situation en EHPAD doit être étudiée et il faut vraiment pouvoir tenir compte hein, de chaque cas particulier et le plus possible hein, de permettre aux familles de continuer à apporter leur présence et leur affection.
Alors dans les situations que vous évoquiez tout à l'heure sur certaines aberrations, eh bien on a ce témoignage de Valérie qui pourrait en être une. Son papa est en EHPAD en Normandie dans une unité fermée et elle raconte « Au vu de mon travail, je ne peux lui rendre visite que le week-end ». Cette demande que je qualifie d'exceptionnelle mais refusée par la directrice de l'EHPAD car les visites sont organisées uniquement en semaine. Je n'ai pas revu papa depuis le 1er mars, il dépérit. Lorsque je l'ai au téléphone chaque jour, il ne peut pas me parler. Alors la directrice dit que mon père a chanté avec l'ergothérapeute après m'avoir eu au téléphone, signe qu'il n'a pas besoin d'une visite car il ne serait pas donc dans une urgence vitale. Ces mots me choquent, je comprends qu'ils doivent prendre des mesures, je les respecte. Si je suis amenée à voir mon papa, il sera à la fenêtre de sa chambre avec une aide-soignante et nous à l'extérieur avec une blouse et un masque sans possibilité d'avoir de contact tactile. Donc je ne vois pas en quoi on ne peut pas m'autoriser à le voir exceptionnellement un week-end. En quoi serait-ce plus dangereux que de venir la semaine ? Je ne supporte plus cette situation, je craque car je trouve que tout cela manque d'humanisme. Pensez-vous qu'il y ait une possibilité de contourner cette décision prise par cette directrice ? Que répondre à Valérie ? On introduit une appréciation. Bon.
C'est une situation qui, évidemment, nous indigne. Hein. Je crois que, bien sûr, le contexte est difficile. Bien sûr qu'il est important de respecter les mesures barrières. En effet, là, il y a une absurdité. Alors, certainement qu'il y a moins de personnel le week-end que la semaine. Mais voilà, quand cette fille dit qu'elle verrait son papa à l'extérieur, à la fenêtre de sa chambre, on ne peut pas imaginer hein, que ça mette en péril qui que ce soit. C'est un peu la difficulté. Enfin, les mesures qui ont été communiquées aux EHPAD hein, à partir du 19 avril dernier, hein, permettant de réouvrir un tant soit peu l'accès des EHPAD aux familles, il est bien stipulé qu'il faut en effet recueillir et entendre les besoins et attentes des résidents. Et on sait que dans la maladie d'Alzheimer, ces besoins hein, ne peuvent pas toujours être exprimés de façon directe et explicite, hein, donc ça c'est une première chose. Mais il est aussi noté qu'il faut recueillir la demande de la famille, des proches et tuteurs. Et donc là on voit bien que cette demande de la famille n'est pas du tout entendue et que quand il sourit à l'ergothérapeute, on en est fort content. Ça ne peut pas vous dire pour autant hein, que sa fille ne lui manque pas et qu'elle n'ait pas besoin hein, d'avoir ce contact au moins visuel et à distance avec son père. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire si c'est un établissement qui dépend du CCAS, du Centre social d'action sociale, elle peut alerter ce CCAS, elle peut aussi alerter l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour essayer qu'un assouplissement soit apporté. Et puis, si vraiment elle n'obtient pas de réponse, il y a aussi donc le défenseur des droits. Dans chaque département, on peut solliciter le défenseur des droits en allant sur le site du défenseur des droits.
Alors, on a reçu aussi un message vocal cette fois de Sophie, et c'est un petit peu dans la même veine sur les visites en EHPAD. On l'écoute.
Oui, bonjour, voilà, je vous appelle. Moi, j'ai ma maman qui est en EHPAD sur Pau, dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc. Et à ce jour, il n'y a toujours rien de mis en place pour pouvoir voir nos parents, que ce soit pour les résidents qui ne sont pas en situation de maladie apparentée ou Alzheimer, ou que ce soit pour les autres résidents. Donc, j'aimerais bien savoir comment on fait pour trouver une solution, parce que ça commence à être un petit peu anormal de laisser les gens dans cette situation.
Bon, là aussi, on a un témoignage un petit peu similaire. Que peut faire cette dame, du coup ?
Oui, là, donc, un EHPAD qui n'a visiblement pas du tout mis en action les mesures pour permettre le retour des familles. Bon, c'est quand même très étonnant. Peut-être qu'il y a des raisons, mais je crois aussi que parfois les EHPAD sont en difficulté, on peut le comprendre. Certaines ont eu véritablement de nombreux cas de Covid-19. Mais si on ne communique rien aux familles, comment peut-on s'attendre à ce que les familles en comprennent quelque chose et surtout puissent vivre les choses le mieux possible. Enfin, il faut absolument apporter une communication régulière et responsabilisante aussi vis-à-vis des familles. Et puis, la même réponse à cette auditrice, c'est-à-dire de solliciter le CCAS, l'ARS, le conseil départemental ou le défenseur des droits, je crois que... Et puis faire remonter, nos associations départementales peuvent aussi recevoir ces différents témoignages et essayer, elles aussi, avec leur réseau, de pouvoir agir et faire évoluer ces situations qui sont très difficiles à vivre. Et évidemment, on est de tout cœur avec les aidants confrontés à ces situations.
On va quand même finir sur un témoignage positif, celui de Florence. Moi, je suis dans un moment présent magnifique. Je m'autorise même une heure de sortie seule dans ce silence sourd, tellement différent, où les oiseaux ont récupéré leurs droits dans le ciel et sur la terre parce que les hommes leur avaient pris. Je me demande ce qu'ils doivent se dire de ce paysage invisible et inconnu d'êtres humains courant dans tous les sens, effrayant comme je le suis moi aussi.
Oui, c'est un témoignage très poétique. Là, il s'agit d'une personne qui... Et dans sa maladie, à une étape où elle peut en effet se déplacer et peut-être profiter, jouir même de cet environnement moins stimulant, avec moins d'informations. Et c'est vrai que quand on a une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, eh bien parfois le monde va trop vite. Les mobilisations parfois sont trop importantes parce qu'on a besoin de plus de temps pour comprendre, analyser les choses, les situations. Et voilà, j'ai eu d'autres témoignages de cette sorte, de personnes à un stade débutant ou modéré de la maladie et qui peuvent finalement profiter en même temps de ce calme, du fait que les choses se ralentissent et que la nature reprenne ses droits et pouvoir être dans une forme de contemplation aussi plus pleine.
Merci pour ces mots, Judith Mollard-Palacios, et merci de nous avoir accompagnés une nouvelle fois et répondu à ces questions, à ces inquiétudes. On vous retrouvera bien entendu dans une prochaine émission.
Merci à vous tous.
Merci beaucoup, chers auditeurs, de vos nombreuses questions, de vos témoignages. On tâchera d'y répondre lors d'une prochaine émission spéciale. Pour cela, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 9h. Nous restons bien entendu mobilisés pendant cette période, plus que jamais à vos côtés. Vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio, www.radiofrancealzheimer.org. C'est d'ailleurs là que vous pouvez commenter et poser vos questions. Ou sinon, vous vous rendez sur la page Facebook de l'association. Prenez soin de vous, et puis toujours un mot d'ordre, on reste à la maison.
Vos questions, nos réponses.